Et on débute avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Monsieur le Président, on a eu très peur. À Rouen, les habitants ont interpellé Emmanuel Macron en visite hier. Un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, lui assure qu'il n'y a pas eu de défaillance de l'État.
Faut-il redouter des suppressions d'emplois? Une fois PSA et Fiat Chrysler mariés, les conseils d'administration de PSA a donné hier son feu vert, une alliance avec le constructeur automobile italo-américain.
Pas de COP25 au Chili. Le président du pays renonce à accueillir ce sommet international sur le climat. La fronde sociale est trop forte. Goodbye John Bercow, le célèbre speaker de la Chambre des communes à Londres, quitte son poste. Retour sur sa décennie passée à ce poste emblématique. Et la question du jour, Guillaume?
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Margot, grève SNCF. D'où vient la colère des cheminots? On posera la question à un professeur de sociologie du travail, Marnix Dressenvagne.
Cette visite à Rouen n'était pas prévue à l'agenda présidentiel. Emmanuel Macron a fait le déplacement hier, un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, pour rassurer les habitants inquiets des conséquences environnementales et sanitaires. Plus de 9000 tonnes de produits, en majorité chimiques, ont brûlé sur ce site classé Seveso. Le président de la République a été longuement interpellé dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Une fois son rendez-vous avec le maire terminé, Julie-Marie Lecomte l'a suivi.
Un mois depuis l'accident des sifflets, cueille d'abord le président, les habitants trouvent qu'il a mis bien trop longtemps à se déplacer.
Je suis en colère, mais je le dis avec courtoisie.
Je vous remercie de me dire avec courtoisie. Et je comprends très bien la colère quand on a vécu ce que vous avez vécu.
J'ai été très, très secouée par Lubrizol et on s'est senti abandonné, littéralement.
Monsieur le Président, on a eu très peur. Hein.
Je sais.
Très, très peur. Il ne faut pas mettre autant de temps que ça, monsieur le Président.
Mais j'essaie de à peu près savoir à quel moment je dois faire les choses. Faites-moi confiance.
Et rétablir la confiance, c'est justement le grand défi.
Le gouvernement a été mobilisé.
Mais ça ne s'est pas vu ni ressenti. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelles vont être les retombées. Il n'y a pas eu de suivi. Clairement, on a été abandonné. En tout cas, c'est ce qu'on ressent.
Emmanuel Macron s'engage à tirer les leçons de ce qui s'est passé.
On apprend, on peut toujours s'améliorer, on va le faire. On continue à être très vigilant et moi j'entends les inquiétudes qui malgré tout demeurent chez certains.
Il tente de parler avenir, promet d'organiser à Rouen l'an prochain un sommet ou une rencontre avec un homologue étranger pour redorer l'image de la ville.
Franchement, rester à Rouen, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas une solution. En tout cas pour mes enfants, je préfère les éloigner.
Je n'ai pas jugé. Mais voilà, on va continuer à accompagner.
Engagement pris hier soir, les toutes premières indemnisations seront versées d'ici la mi-novembre.
Le reportage de Julie-Marie Lecomte avec Nicolas Mathias. De là où je suis, je n'ai pas vu de défaillance. Au contraire, a aussi déclaré Emmanuel Macron à Rouen hier. Un avis que ne partage pas Simon de Carvalho, coprésident de l'association des sinistrés de Lubrizol, l'ASL. Selon lui, les outils existaient pour prévenir la population, mais les autorités ont refusé de les utiliser.
La vérité, c'est qu'il y a eu des défaillances. Puisque nous avons subi cette fumée, nous n'avons pas été informés. La simple, par exemple, juste le fait de mettre des informations sur les panneaux autoroutiers en disant retournez chez vous ou n'allez pas dans l'agglomération rouennaise, ça n'a pas été fait. On n'a pas été informés. On se demande quelle est l'utilité de ces gens. C'est nous, la population, on doit subir et gravement en plus cette catastrophe. Et derrière, donc évidemment que eux, ils se disent oula, on n'a pas bien géré cette crise. On a laissé les habitants tout seuls à respirer ce nuage toxique qui va nous générer des cancers. Donc évidemment qu'aujourd'hui, ils sont dans une communication, ils disent « Ah bah tiens, ce serait peut-être bien qu'on réfléchisse à un système. » Le système, il est déjà en place. C'est une sirène. Nos enfants, ils sont prêts, ils sont préparés à l'école, ils sont préparés. Donc nous aussi, nous sommes prêts. Ils ne nous ont pas avertis.
Simon de Carvalho, interrogé par nos confrères de France Info. L'activité de l'usine Lubrizol est toujours suspendue. Il est trop tôt pour examiner la possibilité d'un redémarrage, a précisé hier le préfet de Normandie devant la mission d'information de l'Assemblée nationale. Édouard Philippe est attendu ce matin en Seine-Saint-Denis. Il officialisera une série de 23 mesures pour aider ce département pauvre du nord-est de Paris. Il doit notamment annoncer une prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonctionnaires à condition de rester au moins 5 ans en poste, le recrutement de 150 policiers, mais aussi la rénovation des commissariats d'Aulnay-sous-Bois et d'Épinay-sur-Seine. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8 heures. Autre dossier entre les mains du gouvernement aujourd'hui, la réforme des retraites. Une première réunion entre le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari et les syndicats de la SNCF est prévue ce matin. L'axe Atlantique est toujours perturbé par une grève. Comptez aujourd'hui 8 TGV sur 10. 90 en circulation. Les préparatifs du possible mariage entre le français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler avancent à grands pas. Le conseil d'administration de PSA a donné son feu vert hier soir. Ce rapprochement entre les deux constructeurs automobiles aboutirait à la création du numéro 4 mondial du secteur. Une opération évaluée à 50 milliards de dollars et que les syndicats redoutent. Les postes en double créés par ce nouvel ensemble seront-ils supprimés ? Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA, s'inquiète.
C'est une évidence qu'il faut se préparer à devoir repousser des attaques concernant l'emploi, bien évidemment, mais aussi concernant le niveau des salaires, concernant le niveau des droits collectifs des uns et des autres. C'est une évidence que pour les actionnaires et puis les PDG des deux grands groupes automobiles, ils vont avoir cet objectif de s'attaquer aux intérêts des salariés, d'essayer de les monter les uns contre les autres, de les mettre en concurrence les uns contre les autres. Visiblement, s'ils vont dans cette direction et qu'ils décident de s'unir, de fusionner, c'est que derrière, il va y avoir des économies d'échelle très importantes. Mais qui dit économie d'échelle, ne serait-ce que pour la recherche et développement, ça veut dire des emplois qui sont supprimés, ça veut dire des budgets qui sont supprimés, et ça veut dire encore plus de profits, mais ça veut dire une productivité qui va aller en augmentant. Et ça va se faire avec la peau des salariés, qu'on soit ingénieur, cadre, technicien ou ouvrier. Il va falloir qu'on se batte tous ensemble, qu'on prenne conscience qu'on a des intérêts pour défendre nos intérêts, justement.
Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA, propos recueillis par Hakim Kasmi. L'homme de 84 ans, suspecté d'avoir blessé gravement deux personnes près de la mosquée de Bayonne lundi, a été mis en examen hier, notamment pour tentative d'assassinat. Il a également été placé en détention provisoire. Il souffre d'une altération partielle de son discernement, mais sa responsabilité pénale reste engagée, estime le procureur de Bayonne. Mardi, le suspect avait déclaré aux enquêteurs avoir voulu venger l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'il attribue aux musulmans.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le Chili renonce à organiser la COP25 en décembre.
Le sommet international sur le climat ne peut pas avoir lieu dans ce pays secoué par un mouvement de contestation et des violences depuis environ 2 semaines pour réclamer plus d'égalité sociale. Même chose pour l'APEC, le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Annonce du président chilien hier, Sébastien Piñera dit vouloir donner la priorité aux demandes des Chiliens. Le reportage de Justine Fontaine.
Pour le 13e jour consécutif, des milliers de manifestants se sont réunis place Italia dans le centre de Santiago. Romy Jorquera, la trentaine, n'est pas surprise de cette décision du président. Le pays est concentré en ce moment sur d'autres choses. Les demandes sociales, c'est ça qui intéresse les Chiliens maintenant. Donc ça ne me surprend pas qu'il ait annulé la COP et l'APEC, explique-t-elle. Ignacio Silva est étudiant. Il manifeste presque tous les jours depuis 2 semaines et il est satisfait de l'annulation de ces 2 sommets internationaux. On a montré que le soi-disant paradis néolibéral chilien n'était qu'un mythe. Le gouvernement, à partir de maintenant, ne va pas focaliser son attention sur l'APEC ou sur la COP, mais plutôt sur la manière de résoudre la crise sociale que vit le pays, dit-il. Pour Claudio Inostroza, la quarantaine, il aurait été inacceptable que les dirigeants de la planète se rendent à ces sommets, alors que, dit-il, les forces de l'ordre répriment les Chiliens dans la rue. Il ne fallait pas qu'ils viennent, cela n'aurait pas été acceptable car la répression est terrible, dit-il. On nous tue, on nous torture, mais on ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on demande, la dignité, affirme le manifestant. D'après l'Institut chilien des droits de l'homme, un organisme public indépendant, au moins 5 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre depuis le début des manifestations et au moins 110 auraient été torturées.
En Bolivie, pays voisin, 2 personnes sont mortes selon un bilan officiel communiqué hier. Cela s'est passé pendant des affrontements entre partisans et opposants du président Evo Morales au pouvoir depuis 2006. Il est donné gagnant de l'élection présidentielle dès le premier tour, un résultat contesté. Une enquête sur le dépouillement doit commencer aujourd'hui, menée par des observateurs internationaux de l'Organisation des États américains. Il ne manque plus que l'accord de la reine et le projet de loi prévoyant des élections législatives anticipées au Royaume-Uni. démunis sera adopté. Ce devrait être une formalité. Ensuite, le Parlement sera dissous mercredi prochain. Dès aujourd'hui, une figure politique s'en va. Après 10 ans de service, John Bercow, speaker de la Chambre des communes, quitte son fauteuil vert face aux députés. C'était prévu, il l'avait annoncé début septembre. Les Britanniques se souviendront de ses interventions musclées et de sa façon de dépoussiérer la fonction, Antoine Gignot.
C'est évidemment le rappel à l'ordre le plus célèbre de l'histoire. Repris, parodié, remixé. Mais John Bercow, avec ses cravates flamboyantes, reste surtout l'homme qui, en 10 ans, a modernisé le Parlement en remettant au goût du jour les questions urgentes pour obliger les ministres à venir s'expliquer face aux députés sans ménagement.
Le Premier ministre a fini de parler et il peut me croire, c'est moi qui le lui dis, c'est fini.
Plus que ses prédécesseurs, le président du Parlement a pris des positions tranchées sur des sujets de politique intérieure et étrangère.
Je suis encore plus opposé qu'avant à un discours de Donald Trump.
Ses interventions, enfin, pour empêcher Theresa May puis Boris Johnson de présenter à plusieurs reprises leur projet de loi sur le Brexit, ont fait de lui un héros pour les europhiles, un traître pour les autres. Rob Wilson, ancien député, journaliste au Télégraphe.
Il est devenu partisan. Ce n'est pas bien pour le Parlement. Il a pris parti dans les débats et avantagé un camp au détriment de l'autre.
Ce n'est pas la seule accusation. Son secrétaire dénonce aussi des vexations, des remarques et parle de harcèlement moral, allégation rejetée par la commission parlementaire qui a choisi de ne pas enquêter sur le sujet.
Antoine Gignot. Boeing annonce l'immobilisation d'environ 50 appareils 737 NG dans le monde. Le constructeur aéronautique dit avoir découvert des fissures structurelles pendant une inspection générale. À ce stade, 1 000 000 d'appareils ont été vérifiés. Une annonce qui intervient alors que Boeing est déjà dans la tourmente. Son patron a été violemment critiqué hier au Congrès américain. Interrogé sur sa responsabilité dans les accidents des 737 MAX de Lion Air et d'Ethiopian Airlines, accident qui avait fait 346 morts. Des nuages gris s'affichent partout sur la carte de Météo France aujourd'hui, avec même de la pluie de la Normandie aux Pyrénées. Il fait ce matin entre 4 et 8 degrés au nord de la Seine, 8 à 13 au sud. Cet après-midi, les températures maximales seront de 10 degrés à Strasbourg, 11 à Lille, 12 à Paris, 18 à Marseille et Bordeaux et 20 degrés à Ajaccio, Guillaume.
Merci Margot Delpierre, merci pour ces nouvelles de la Terre des Hommes, parce que dans 30 minutes, on va vous donner des nouvelles des Hobbits. Ça sera une spéciale Tolkien aujourd'hui. En attendant, c'est un peu moins onirique. On va parler du climat social. Alors non pas dans les mines de la Moria qui sont chères à Tolkien, mais à la SNCF. 7h12 sur France Culture.